Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Rey, directeur général adjoint EPA Marne et EPA France. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors bon, effectivement, nous sommes quelques mois après des élections extrêmement importantes qui ont un petit peu bouleversé, on va dire, un certain nombre de choses sur la thématique de l'aménagement, entre autres. Donc l'ADN EPA Marne et EPA France est bousculé.
On ne peut pas dire qu'elle est bousculée, on va dire qu'on est amené à s'adapter aux différents contextes qui s'offrent à nous sur le résultat des élections que vous évoquez sur 2020. Bon, on a quand même déjà eu un premier impact, c'est un impact calendaire sur l'avancement de nos opérations. Il a fallu bien sûr faire avec le Covid, hein. On a quand même dû arrêter une trentaine de chantiers d'aménagement.
Oui, donc économiquement, un impact extrêmement important.
Assez sensible. Et puis, on a dû patienter, bien sûr, que les élections aient lieu. Et donc, sur le résultat des élections, on a quand même une certaine stabilité sur des villes un peu stratégiques pour
bien
nous.
Sûr.
Et puis, on en a d'autres qui ont effectivement basculé. Et donc, on doit réécrire une histoire avec les nouveaux élus, prendre en compte et respecter leur feuille de route.
Et les attentes des habitants.
Et bien, les attentes des habitants qui s'expriment au travers, en tout cas, en premier lieu pour nous, par les élus, et dans un second temps, via les différentes démarches de communication et de concertation qu'on peut avoir sur les projets.
Voilà, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même certains projets emblématiques, je vous laisse évidemment en parler, certains projets emblématiques qui sont un peu, on va dire, secoués. À la lueur de peut-être du confinement qui a, je dirais, permis aux gens, aux habitants, de rester un petit peu plus chez eux, de regarder un peu leur paysage et de se poser des questions par rapport à ce qu'ils souhaitaient dans l'aménagement de demain.
Alors, ce qui est vrai, c'est que ce contexte nous amène quand même à repenser différemment les modes d'habiter et les modes d'usage d'un territoire. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas dire qu'on l'a forcément fait exprès. Je crois que c'est Coluche qui disait ça. Mais on avait quand même engagé une certaine réflexion sur plusieurs projets phares. Hein, par exemple, les plans guides des projets à Bussy-Saint-Georges ou à Montévrain ou à Chantelon-Aubrie étaient déjà en cours d'évolution. Et donc,
oui, c'est ça. Vous n'aviez pas des ZAC stabilisés ou des plans guides, on va dire, fortement ancrés. Vous étiez
figé,
déjà dans l'idée,
voilà.
C'est ça,
déjà
d'avoir
dans l'idée qu'il fallait
évolution.
Un peu réadapter. Ouais. On voit Bussy-Saint-Georges, l'écoquartier du Sycomore, c'est 4500 logements. On en est à 1000 aujourd'hui. Le fait de réengager une nouvelle démarche de plan guide avec une nouvelle maîtrise d'œuvre urbaine, ça nous amène quand même une réelle dynamique et une nouvelle volonté de s'adapter aux nouvelles attentes.
Il y a une vraie différence, hein. Il y a une différence de personnes, évidemment. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence de conscience de l'aménagement différemment de...
Oui, honnêtement, il y a une vraie démarche d'évolution, notamment sur la conception des îlots, sur le sujet de l'artificialisation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête
bien
il y a
sûr.
10 ans et qui est en tête, enfin, qui est vraiment notre quotidien.
Donc moins
aujourd'hui.
De voirie, une
pas forcément moins de
voirie,
mais en tout cas une manière d'appréhender notamment la mutualisation du stationnement, la manière d'appréhender la place de l'espace public dans le projet, la manière d'appréhender le non-artificialisation au cœur même des îlots aussi nous amène à une certaine démarche. Et puis, bien entendu, la question de la densité, de l'organisation spatiale des différents lots. Donc non, en fait, ça nous a quand même conduit à un certain nombre de changements, y compris sur des lots qui étaient en cours de développement et qui nous amènent du coup à être assez innovants et adaptables pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse engager une vraie dynamique d'évolution de ce projet.
Ça veut dire que la place de la voiture, par exemple, sur ces territoires-là, est amenée à vraiment évoluer ?
Je vais vous donner mon sentiment perso. Lorsqu'on est sur Marne-la-Vallée, et qu'on est au cœur de Marne-la-Vallée, donc pas au Val d'Europe à 5 minutes du RER ou pas à Noisy-le-Grand à 5 minutes du RER.
C'est facile puisqu'on arrive à Paris intramuros en 40 minutes.
Voilà, Myriam cite mon exemple de ce matin où je suis arrivé en 40 minutes porte à porte au cœur de Paris grâce à la trottinette et au RER. C'est vrai. Mais il faut quand même être un petit peu lucide. La place du véhicule aujourd'hui est encore une place à prendre en compte dans nos projets urbains. Ce qui est vrai, c'est qu'on doit être en capacité d'appréhender à l'avenir une diminution de l'usage de la voiture. Donc en fait, il faut à la fois faire en sorte que les habitants puissent s'y retrouver aujourd'hui et puissent avoir accès à la place de la voiture dans leur ville, tout en se mettant en capacité d'appréhender les futurs usages qui tendent quand même à faire évoluer les modes de déplacement.
Voilà, c'est ça. Donc des mobilités douces, plus de vélos, plus de trottinettes.
Exactement, on travaille énormément sur la partie mobilité douce, pistes cyclables. On est fortement engagé sur ces réflexions-là. On avait déjà une vraie démarche d'implémentation de pistes cyclables dans nos projets urbains. Elle est encore plus renforcée aujourd'hui, notamment avec la démarche de la région Île-de-France. On parle du RERV notamment, mais il n'y a pas que ça. Et là, pour le coup, on est extrêmement suivi par les collectivités. On sent qu'il y a une attente. Les collectivités, les élus ont complètement compris l'enjeu. Et donc, il faut être un petit peu pragmatique sur le sujet. La place de la véhicule pourrait être diminuée dès lors qu'on sait offrir des services alternatifs de manière qualitative. Et donc, tant qu'on n'a pas une vraie logique de cheminement, de bout à bout en piste cyclable, de bande de recharge pour les vélos, ou les trottinettes et une vraie logique de déploiement d'autopartage, ce qu'on a déjà sur Marne-la-Vallée avec Mopizi.
Et puis d'abri, parce qu'effectivement aujourd'hui prendre un vélo ou prendre une trottinette pour aller jusqu'à la gare RER et ne pas être sûr de pouvoir garer son vélo d'une manière sécure, c'est aussi une problématique.
Ah oui, non, mais en fait, quand je vous parlais d'un ensemble de services à offrir, tant pour la partie déplacement que sur la partie stationnement de nos équipements, donc vélo, trottinette, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je suis assez fier de pouvoir dire qu'on avait déjà un petit peu anticipé ça, parce que quand vous habitez Marne-la-Vallée,
il y a quand même des distances
à faire, mais c'est pas des distances insurmontable. La question du relief est une autre histoire. Donc là, typiquement, on sait que sur certains tracés de pistes cyclables, l'utilisation du vélo non électrique pourrait être problématique. Donc on doit s'organiser pour faire en sorte que la place du vélo électrique soit offerte sur ce territoire et de manière assez simple, en fait.
Alors, on parle mobilité, puisque effectivement il y a une certaine distance à parcourir. Est-ce à dire que les habitants de demain souhaitent aussi avoir plus d'habitats individuels? Peut-être qu'on va de nouveau miter le paysage, je fais un peu de provocation, mais comment fait-on justement pour gérer cette densité, l'immeuble à grande hauteur versus la maison individuelle à Marne?
Ouais, la petite provocation de Myriam, je l'attendais un petit peu, mais là aussi, il faut être un petit peu lucide. On va pas déployer des grands ensembles sur Marne-la-Vallée. C'est pas l'ADN de Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée a toujours été un territoire qui s'est développé au travers d'une place de l'espace public et de la nature prédominante. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à ce stade, on est sur Marne-la-Vallée à 50% d'espace ouvert, espace boisé, espace agricole et espace urbain, et que à la fin du développement de Marne-la-Vallée, on restera encore à 30%, tel que les plans guides nous le montrent aujourd'hui.
Alors justement, la densité, comment gère-t-on ?
Déjà, la question de l'étalement urbain, il faut quand même un petit peu précis. Sur Marne-la-Vallée, historiquement, à l'époque encore où c'était la ville nouvelle, on avait quand même un schéma directeur qui était posé depuis les années 70, qui avait quand même prévu une urbanisation de ce territoire. Aujourd'hui, on urbanise moins que ce qui était prévu dans les années 70-80. C'est important de le noter. Donc on garde une place plus importante à la nature que ce qu'on avait prévu dans les années 70-80. Donc on s'est aussi un petit peu adapté.
C'est tout à votre honneur.
Avec le temps, mais oui, tout à fait. Et en fonction des territoires, la question de la densité se joue aussi en fonction de la proximité avec les transports en commun. On le sait. Sur des territoires où on est assez loin, entre guillemets, des transports en commun, faire de la forte densité a, à mon sens, pas grand intérêt. Par contre, faire de la densité sur les quartiers de gare du Grand Paris Express et faire en sorte qu'on puisse offrir le choix aux futurs habitants d'être dans un habitat collectif avec une forte offre de services de proximité au pied d'immeuble ou à proximité immédiate, et de faire le choix pour d'autres habitants d'habiter dans du logement individuel avec une place de la nature importante, c'est aussi une vraie opportunité qu'on a sur ce territoire.
Oui,
on sait faire les deux.
Le télétravail et ce qui vient de se passer aujourd'hui, qui n'est pas fini, nous donne aussi l'opportunité de savoir qu'on peut travailler en étant chez soi. Et donc, quelque part, le retour de la maison individuelle doit vous plaire, puisque quelque part, sur ce territoire, sur votre territoire, où vous avez quand même une concentration de maisons individuelles importante, vous répondez aussi à ce besoin de proximité avec la nature, le travail.
Oui, c'est vrai, mais l'intelligence de nos projets urbains nous permet aujourd'hui de faire à la fois du collectif et de l'habitat individuel sur un même projet urbain. Vous le savez, on a aujourd'hui une capacité de pouvoir mixer l'offre de logement et de faire en sorte qu'on puisse avoir une réponse à toutes les attentes des habitants dans une équation économique qui puisse être satisfaisante. Parce que je rappelle quand même que l'objet même d'un établissement public, c'est de pouvoir faire du logement à un prix marché et de ne pas être trop élevé dans la prix de sortie des logements.
Alors justement, vous êtes juste avec les élections et quelque part des re-questionnements dans une équation économique qui tient toujours la route, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des fragilités ?
C'est aussi la force de l'établissement public, c'est que depuis les années 70, on a fait de l'acquisition foncière. Donc on est aujourd'hui un
opérateur. Vous avez une réserve.
On a un gros opérateur. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les fonciers qui se négocient aujourd'hui se font à des prix beaucoup plus élevés, et donc ce qui rend l'équation économique des nouvelles opérations d'aménagement que nous développons beaucoup plus complexe à équilibrer. Et là aussi, il faut pouvoir travailler en partenariat avec les collectivités, avec les services de l'État et les différents partenaires possibles pour les subventions, pour faire en sorte que le bilan s'équilibre au mieux, sans avoir forcément à densifier dans une équation qui ne serait de toute façon pas acceptée par les élus.
Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les élus vous obligent à réinterroger vos plans guides, et ça se fait dans la concertation ?
Ça se fait dans une concertation beaucoup plus en amont que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, si je prends des exemples de parcs urbains de 15 hectares sur Série, si je prends l'exemple d'un nouveau quartier de 400 logements à Ormesson-sur-Marne, et si je prends même le développement d'un projet très innovant sur Montévrain, on est dans une opération de concertation numérique avec le développement d'une démarche extrêmement innovante et extrêmement adaptée à chacun des projets et qui permet quand même aux habitants et aux usagers d'un territoire de s'exprimer beaucoup plus en amont et de manière très différente de ce qu'on a pu connaître depuis des décennies sur la concertation réglementaire avec les fameux ateliers à 18h en mairie.
Voilà, où personne ne venait, où il y avait...
En tout cas, les personnes qui venaient, je vais le dire sans trop de provocation, en tout cas, on a besoin aussi de ces ateliers-là, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je dis qu'on n'a pas forcément le panel représentatif de tous les habitants et usagers d'un territoire lors de ces ateliers.
C'est ça, donc maintenant, vous avez les ateliers pour les personnes âgées qui ont le temps et qui aiment bien se rencontrer et avoir le sentiment que quelque part, évidemment, on les écoute. Et puis, les jeunes qui sont dans la digitalisation. Et donc, cette concertation du digital, vous y croyez ?
Bon, on y croit parce qu'on voit le nombre de connexions. On voit le taux de participation lors de ces concertations-là. Je prends l'exemple du projet à Série sur le parc urbain de 15 hectares. On a quand même eu 2000 connexions et plus de 1000 propositions de parcs créées. Enfin, c'est juste extrêmement innovant et surprenant. Donc, cette démarche-là, aujourd'hui, on l'a. Vous parliez d'ADN tout à l'heure de l'EPA, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans l'ADN de l'EPA.
En complémentarité du bois, puisque effectivement on n'en a pas parlé. Je pense qu'il y a encore quelques sujets.
On va peut-être Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi on n'a pas parlé du bois ? Parce qu'aujourd'hui tout le monde sait qu'à Marne-la-Vallée on fait du bois et que on fait aujourd'hui la moitié de notre production de logements en construction bois et que c'est quelque chose qui est dans notre ADN, désormais, et qui va se poursuivre dans le budget pluriannuel de l'établissement.
On en parlera peut-être lors d'une deuxième interview, parce que je pense qu'on n'a pas, regardé tous les sujets. Merci Jean-Baptiste.
Merci à vous.
Merci chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.